Et dans la chronique économique ce matin, avec notre Daniel Guggenheim national ou même international, docteur en économie et expert pour l'organisation israélienne Qualita, Lise, on va parler avec lui de l'analyse du rapport sur la pauvreté en Israël en 2024. Daniel, s'il vous plaît, on est à l'antenne là. On va revenir avec lui sur l'analyse du rapport sur la pauvreté en Israël en 2024 et 2025, publié par les assurances sociales. On va aussi parler du gouvernement israélien qui annonce des investissements de milliards dans le Nord et de l'agence juive qui débloque 1 milliard de shekels pour financer l'habitat dans le Negev occidental. Lise, vous parlez de tout cela avec Daniel Guggenheim.
Oui, Daniel Guggenheim, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, les statistiques sociales israéliennes qui ont été publiées vendredi sont alarmantes, Daniel. 2 millions de citoyens sous le seuil de pauvreté, dont 880 000 enfants. C'est quand même très angoissant.
Oui. Quand vous me connaissez, je dis toujours relativiser les chiffres et faire surtout une analyse honnête de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit le Bitoach Loumi? Effectivement, les chiffres que vous avez annoncés sont vrais, mais ce qui est d'abord la première chose que dit Bitoach Loumi, point de vue de la population, cela représente 20% de la population qui serait en dessous du seuil de la pauvreté. Et pour les enfants, 28%, le chiffre même de 900 000 que j'ai vu. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, d'ailleurs, que pour les vieux, d'ailleurs, c'est moins important, c'est seulement 12,5%, parce que souvent, les gens qui sont âgés vivent seuls et donc ont moins de problèmes à ce niveau-là. Ce qu'il faut dire au niveau de la ligne de la pauvreté, c'est que du fait que les salaires ont augmenté, la ligne de la pauvreté a augmenté. On parle maintenant pour 2024 et on a les chiffres, les premiers chiffres pour 2025, de 7%, c'est-à-dire même 4% en plus de l'inflation chaque année. Donc, c'est dû aussi le fait que ça reste stable alors que le seuil de la pauvreté augmente, ça prouve que il y a la pauvreté est moins profonde que ce qu'il en est. C'est le premier chiffre qu'il faut dire. Le deuxième, et par exemple, je donne un exemple de ce que ça veut dire le seuil de la pauvreté en Israël. S'il y a un couple, il a 7000 shekels par mois. Et en dessous de ça, il est déjà en dessous du seuil de la pauvreté. S'il a 2 enfants, il faut qu'il ait 14 352 shekels pour être en dessous de la seuil de la pauvreté. Et donc, si on regarde quelqu'un où il n'y a qu'un des deux qui travaille et qu'ils ont 2 enfants, souvent, 14 352, c'est quand même un gros chiffre pour un salaire. Donc, c'est dû également à la chose suivante. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Il faut dire également, par rapport à ça, c'est que il y a eu en Israël, depuis quelques années, à peu près début des années 2000, l'augmentation de faire une retraite, que ça soit au niveau des salariés ou au niveau des indépendants. Et on pense que c'est ça qui a aidé également à stabiliser ce seuil de pauvreté, cette obligation qui a été faite de la retraite. Qu'est-ce que dit le Bitoach Loumi? Il dit, comme j'ai dit, que ça reste stable, malgré l'augmentation de la seule pauvreté. Maintenant, bien entendu, lui dit, je vois de ces chiffres-là aussi une augmentation de un besoin d'augmentation du social. C'est également le but de ce rapport en disant, c'est très important qu'il y ait pour une certaine catégorie de la population une aide sociale pour justement les permettre de rester bien au-dessus de la seuil de la pauvreté.
Parce que Daniel, il y a quand même quelque chose dans ce rapport qui est choquant, c'est que plus de 70% des familles pauvres ont dedans au moins une personne qui travaille. Donc, ça veut dire que l'emploi ne suffit pas à sortir de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps partiels, parce qu'il y a des bas salaires, etc. Mais donc, c'est ça aussi qui est difficile. C'est que même avec un des parents qui travaille, on peut être pauvre véritablement quand même.
Oui, vous avez raison. Il y a aussi, il note ça aussi d'ailleurs, le Bitoach Loumi, c'est-à-dire les assurances sociales, ainsi que les institutions caritatives, montrent le problème de la vie chère. C'est-à-dire par rapport au fait que vous dites qu'il y a des gens qui seraient justement pas à recevoir un grand salaire, il y a un problème de la vie chère en Israël. Mais là-dessus aussi, on en a parlé. On espère qu'en 2026, il y aura une décélération de l'inflation. Mais encore une fois, par rapport à votre question, je voudrais revenir dessus. Vous dites, il y a qu'est-ce que moi j'ai dit comme chiffre qu'il faut pour être au-dessus de la seule pauvreté. Si on a deux enfants, 14 000 shekels avoir en net, ça veut dire avoir dans le à cause des retraites et d'autres choses, aux cotisations et les impôts, ça veut dire avoir un salaire de 20 000 shekels pour un des deux. Donc c'est quelque chose de très très important.
Ou deux salaires, ou deux salaires même sur ce truc-là. Mais après, si vous avez un loyer qui est à 5-6 000 shekels et vous payez 5-6 000 shekels de gagne, 14 000, vous n'allez pas finir par manger, Daniel.
Alors, d'abord, ce que vous dites 5-6 000 shekels, ça dépend où est-ce que vous avez des locations.
Ah, c'est oui,
évident, vous parlez dans les villes. Il y a des endroits où ça coûte moins cher quand même, ouais, des locations. Une autre chose qu'il faut dire, c'est que les gens, d'ailleurs, il y a une baisse de 5% de ce qu'on appelle de manque de nutrition. Elle est passée de 33 à 28%. Je dis pas que tout est rose, mais je dis qu'il faut analyser bien les chiffres. Je voudrais dire aussi une autre chose, et qui n'est pas, à mon avis, assez dite, et il faut quand même le dire. Les secteurs où il y a plus de pauvreté en Israël, c'est quelque chose qui est établi, je pense, c'est d'une part le secteur arabe et le secteur orthodoxe. Or, pour diverses raisons que je ne veux pas revenir ici, dans ces deux populations, le revenu déclaré est moins important que le revenu réel. Donc, je ne suis pas sûr que les chiffres que par rapport à ces populations que annonce le Bitouah Loumi soient vraiment les chiffres qui sont vraiment donnés. Vous et moi, on est en Israël, on voit ce qui se passe. Je dis, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas des cas sociaux ou des problèmes, mais, on voit pas 20% de la population, qui n'a rien dans son frigidaire. Donc, c'est, apparemment, il y a aussi ça qui joue, une partie du revenu qui serait plus important que ce que sur lequel, bien entendu, peut se baser le Bitouah Loumi pour donner ses statistiques.
Alors Daniel, puisque nous on reviendra sur ce sujet demain avec Gilles Darmon qui est le directeur de l'organisation La Tête, on peut passer au deuxième sujet que vous aviez envie de traiter aujourd'hui, et on parle d'investissement cette fois, notamment d'investissement en milliards, vous avez dit, dans le Nord, et également pour financer l'habitat dans le Negev occidental, c'est-à-dire dans le Sud.
Oui. Cette semaine d'abord, le gouvernement israélien s'est réuni dans la ville de Kiryat Shmoné. Je ne sais pas si vous citez le sang, cette ville-là qui est vraiment au bord du Galil, ce qu'on appelle le doigt du Galil, à la frontière du Liban, a été extrêmement touché pendant la guerre, et pas toute la population, malheureusement, a voulu revenir dans cette ville-là. Et c'est pour ça que le gouvernement a voulu symboliquement siéger dans cette ville-là et faire des annonces très importantes. Première annonce, il y avait depuis 20 ans, il n'y avait pas d'aéroport à Kiryat Shmoné, et ils vont mettre 10 millions de shekels par an pour le remettre en marche. Ça veut dire que Kiryat Shmoné pourra être à Tel Aviv en 40 minutes, à Eilat en 1h15, ça veut dire que la périphérie, tout ce qui sera autour de Kiryat Shmoné, se rapprochera beaucoup plus du centre d'Israël. Une autre chose qui est, c'est que les trains, ils veulent faire des trains à grande vitesse qui mettront dans plusieurs années Kiryat Shmoné à 2 heures de Tel Aviv. Enfin, puis on a parlé aussi de milliards, seulement quelques millions, sur quoi par exemple? Sur les infrastructures, pour amener aussi de l'emploi, mais également sur l'éducation. Il va y avoir une université qui va se trouver à Kiryat Shmoné pour une somme de 30 millions de shekels va être investie donc pour faire cette université, pour attirer les jeunes. Et donc tout ça devra permettre à tout cet endroit-là de se reconstituer. Au même moment, comme vous l'avez dit, la Sochnout, l'agence juive, a, grâce à des fonds qu'elle a eus dans tout le monde entier, décidé de faire un programme qui permettra d'augmenter les habitations, de les faire plus vite, de construire plus vite des habitations dans tout ce qu'on appelle le Negev occidental. La raison de, ça veut dire Netivot, Ashkelon, toute cette région-là qui a été très fortement touchée pendant la guerre, bien entendu, puisqu'elle n'est pas loin de Gaza. La Sochnout, qu'est-ce qu'elle a dit? La chose suivante. Elle va dire comme ça: je prends 1 milliard de shekels que je donne aux municipalités, et les ministres, un prêt, pour justement qu'ils puissent vite faire des appartements. Ces municipalités n'auront besoin de rembourser ce prêt de 90% du coût de la construction dans leur localité que lorsque ça sera habité, ou bien s'ils veulent le louer avant qu'ils aient trouvé des acheteurs, la location pourra payer les emprunts qu'ils ont faits. Et ils ont dit également qu'il y aura là-dessus une garantie gouvernementale plus 75 millions de shekels de première garantie de la Sortnout au cas où il y aurait quelqu'un, une habitation ou des gens qui ne pourraient pas rembourser ce prêt. Ils ont dit qu'ils ont fait cette annonce quelques jours après le retour du dernier otage en Israël, Rangvili, pour bien montrer justement cette symbolique du retour du dernier otage avec cette volonté de développer cette région-là, qui d'ailleurs va se faire en coopération avec ce qu'on appelle Kouma, qui est l'organisation du gouvernement qui est chargée de la reconstruction, le ministère des Finances, le ministère et le ministère de l'Habitat.
Merci beaucoup, Daniel Guggenheim, d'avoir été avec nous ce matin, docteur en économie. Bonne journée à vous et à très bientôt.
Avec plaisir.